7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quelle place pour la religion au travail? Fêtes religieuses, prières, demande de menus spéciaux à la cantine, voire refus d'effectuer certaines tâches au nom d'un interdit religieux. Les demandes des salariés sont-elles en augmentation? Comment un patron doit-il réagir? Doit-on laisser sa religion à la porte de l'entreprise pour travailler ensemble? Autant de questions qui ne concernent pas que la France, mais c'est vrai, qui plongent les managers dans une plus grande inquiétude dans l'Hexagone, notamment depuis les attentats de 2015. Bonjour Denis Maillard.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des transformations du travail, vous publiez une enquête approfondie et tout à fait passionnante quand la religion s'invite dans l'entreprise, malaise dans le travail. Jean-Louis Bianco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également avec nous, merci. Vous êtes président de l'Observatoire de la Nationale de la Laïcité. Vous êtes également ancien ministre et vous avez publié l'année dernière « La France est-elle laïque ?». Avec nous également Bénédicte Ravache, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes secrétaire général de l'Association Nationale des DRH. On sera aussi en ligne avec le syndicat Force Ouvrière. Et chez vous, les voisins, dites-nous quels sont les problèmes que posent les religions à votre travail. Appelez-nous dès maintenant pour témoigner, que vous soyez d'ailleurs employé ou patron. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. N'attendez surtout pas la fin de l'émission pour discuter du sujet avec nos invités. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez commenter. Souleymane est à N'Djamena au Tchad. Il nous dit qu'il y a des mosquées sur des lieux de travail dans la fonction publique comme dans le privé. Osana Beboto, dans le sud du Tchad, nous dit « Un de mes cousins a perdu son emploi parce qu'il a refusé de suivre son patron musulman qui lui demandait de venir prier avec lui. Mon cousin chrétien a refusé, il a été viré. Les syndicats doivent s'unir pour trouver une solution à ce phénomène. Quelle est aussi la responsabilité des autorités locales ou régionales dans cette affaire ?» Tidiane est à Dakar. Et son entreprise de sucre au Sénégal, nous dit Tidiane, est la propriété d'un juif et mon directeur de département est chrétien. Il sait que je prie dans mon bureau, il ne s'en offusque pas pour autant, il m'a même demandé un jour si j'avais prié pour lui. Afi, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, on demande souvent la religion avant de t'embaucher. Lorsque tu vas déposer ta demande, on exige parfois que tu sois de la même religion que l'employeur. Évidemment, comme ça, il n'y a plus de problème. Rachel est à Chennai en Inde et elle nous dit qu'il existe des entreprises qui ont un temple dans leurs locaux et qui font des offrandes. Boubacar à Kay, dans l'ouest du Mali. La religion, nous dit Boubacar, doit se limiter au lieu de culte et au domicile personnel. Voilà, pour lui c'est très clair, ça semble très clair. Dans la réalité, c'est souvent plus compliqué, en témoignent ces témoignages. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Vous nous suivez aussi sur Facebook et en direct sur Twitter et Instagram.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'un des rares chefs d'entreprise qui accepte de s'exprimer sur ce sujet en France, Jean-Luc Petit-Huguenin. Il est le fondateur de l'entreprise de recyclage Paprec. Étant donné la diversité de ses employés, il a choisi d'appliquer depuis 2014 une charte de la laïcité qui est collée dans le hall d'entrée du siège social. L'idée en clair, aucun affichage religieux dans l'entreprise, quel qu'il soit.
On s'est posé une question à froid, pas à chaud, donc il n'y avait pas d'événement dans mon entreprise, sur qu'est-ce que doit faire un champion de la diversité. Est-ce qu'il doit accepter les salles de prière? Est-ce qu'il doit accepter les femmes voilées? Parce que mon siège à l'origine est basé à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, et contrairement à ce qu'on croit, on est arrivé à l'idée que la laïcité protège les croyants modérés et combat les croyants fanatiques. Et ça, donc, on a fait 50 débats laïcité dans chacune de mes usines et on a fait un référendum pour que les gens disent on voudrait appliquer la laïcité en entreprise, puisque normalement c'est réservé à l'État. Tout le monde a voté pour. Et donc, on est quand même 4000 salariés à avoir dit bien, on veut être protégé par la laïcité. Il est éventuellement possible, si je refaisais ce vote aujourd'hui, comme les crispations continuent de monter, peut-être que j'aurais quelques opposants. je recommanderais à tout le monde de prendre ma démarche. C'est-à-dire, il faut interroger les gens. Je leur impose la lutte contre les discriminations, autant je ne peux pas leur imposer la laïcité. Et la force de ma démarche, c'est justement que les gens ont voté pour. À cette occasion-là, donc, on a découvert que le sujet pouvait être polémique. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent qu'on est des grands criminels. J'ai des gens qui m'ont promis de me mettre une balle dans la tête parce que j'avais proposé ça, ce qui me semblait peut-être pas mériter ce traitement-là. On est des militants de la laïcité.
Et vous n'avez jamais eu aucune demande, par exemple, de salle de prière dans l'entreprise ?
Alors, on n'a jamais eu de demande de salle de prière, mais on a réfléchi. Et là, à notre surprise, j'ai des tas de gens qui sont venus me voir, même si on n'a pas de statistiques, pour me dire « je suis musulman », qu'on connaît, et qui nous disent « mais non, mais ne l'autorisez pas, parce que nous, nous serons obligés d'aller à ces salles de prière, et on n'a pas envie, la protection que vous nous devez, vous, c'est que ce soit à l'extérieur de l'entreprise et pas à l'intérieur, même si tout d'un coup, on voit un retour du religieux. Mais quand ce retour du religieux oppose les gens. On n'est plus dans des confrontations sympathiques en ce moment. Après Bataclan, après l'hypercachère, on est dans des confrontations graves avec des ennemis de la République installés sur notre territoire qui combattent les valeurs que le peuple français, dans son immense majorité, a forgées avec le temps.
La charte stipule « Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser l'exécution d'une mission ». Alors concrètement, si par exemple un salarié refuse de serrer la main d'une femme, qu'est-ce qui se passe ?
Chez nous, c'est très clair, il est licencié. Et donc on sera extrêmement sévère. Et là, par contre, je suis absolument persuadé que les tribunaux me donneraient raison, puisque l'égalité homme-femme, elle fait partie du patrimoine juridique de la France.
Et dans les restaurants collectifs, comment ça se passe ?
C'est comme tous les restaurants en France, on n'a pas de menu halal, on n'a pas de... Mais tout le monde peut manger des légumes, et par voie de conséquence, j'ai encore jamais obligé qui que ce soit à manger un steak ou manger du porc. Donc si le tout, c'est d'avoir une diversité d'offres suffisante pour que chacun puisse manger à sa faim ce qu'il souhaite manger. Mais ce n'est pas une raison non plus pour obliger tout le monde à manger halal.
Jean-Louis Petit-Huguenin, donc fondateur de l'entreprise de recyclage Paprec, à l'écouter, ça semble clair et simple. Ça ne l'est pas. La preuve, c'est que la plupart des managers qu'on a contactés refusent de s'exprimer au micro dans les médias. Pourquoi cela ? Pourquoi le sujet est tellement tabou, tellement miné, Denis Maillard ?
Alors, je crois que le sujet... en fait, il n'est pas dissociable de la situation dans laquelle se trouvent les religions aujourd'hui en France et dans le monde. Et notamment, pour ce qui est de la France, et les cas, alors que je rapporte dans le livre, mais les cas majoritairement que l'on constate dans les entreprises, c'est lié à la religion musulmane et forcément... tous, on va faire le lien avec la situation de l'islam dans le monde arabo-musulman, qui est une situation de crise, c'est-à-dire de guerre de religion, l'État islamique, les tensions qu'on vit actuellement, géopolitiques, etc. Enfin, quand on regarde le monde...
L'entreprise n'est pas perméable à la géopolitique,
alors,
finalement.
Alors, l'entreprise n'est pas perméable à la géopolitique, oui, parce que tous les salariés viennent avec leur identité, ce qu'ils ont entendu à la radio, la manière dont ils vivent les choses. Et puis, il y a eu un phénomène en France, en tout cas en 2015, qui ont été les attentats et qui ont fait ressurgir à cette occasion toutes ces questions, mais qui existaient déjà dans l'entreprise depuis un petit moment, puisque la grande affaire qui avait mis tout ça en lumière, c'était la crèche Babylou en 2008. Donc, 2008, c'est le moment où la société française, à ce moment-là, prend conscience qu'il y a des problèmes de fait religieux dans l'entreprise.
Avec une employée voilée dans la crèche.
Oui, c'est ça. C'était une crèche qui était ouverte 24 heures sur 24, qui voulait accueillir tout le monde. Et puis, l'une de ses employées, en retour de congé maternité, vient avec un voile. Et ça contrevient aux valeurs de la crèche qui voulait, un peu comme l'entreprise Paprec, dont on a entendu le témoignage, qui voulait neutraliser toutes ces manifestations religieuses. Il se trouve que le droit du travail, alors là, on va peut-être tomber sur d'autres discussions. Les droits du travail ne le permettaient pas. Et donc, il y a eu un débat juridique qui a duré de juridiction en juridiction autour de la crèche Babylou pendant des années.
Bien sûr, on va parler de ce que dit la loi dans un pays comme la France, mais pourquoi dans votre enquête de plus de 200 pages, Denis Maillard, il n'est question que d'une seule religion ? Tout à l'heure, vous venez de dire des religions, les religions. Or, dans votre livre, il n'est question que d'une seule religion, la religion musulmane. C'est pas complètement stigmatisant ?
Non, je crois pas. Alors, il est question majoritairement de la religion musulmane, pas que de la religion musulmane, mais toujours est-il, je pense que...
Il y a des juifs qui ne veulent pas travailler le vendredi,
oui,
par exemple.
Arrive, ça arrive. Mais majoritairement, les cas qui remontent... Alors, d'abord, deux choses. Un, il y a très peu de données, finalement, sur la quantification du fait religieux. Il y a une étude, enfin, un sondage annuel de l'Observatoire du fait religieux en entreprise qui donne un peu des données. Mais on a finalement peu de choses. Après, il faut s'en remettre au témoignage des chefs d'entreprise, des DRH, des managers qui nous disent des choses. Et des syndicalistes aussi, parce que les représentants du personnel voient aussi beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que majoritairement, c'est l'islam. Et je pense que ça, il faut le dire pour pouvoir le nommer, le dépassionner et surtout l'expliquer.
Donc
ce que j'essaie de faire,
sur
c'est
les témoignages
expliquer pourquoi c'est l'islam.
Pour justifier votre choix d'écrire 200 pages uniquement sur le fait religieux musulman en entreprise, finalement.
Je crois qu'il faut nommer le fait musulman au travail pour pouvoir, encore une fois, le dépassionner, l'expliquer et surtout expliquer pourquoi aujourd'hui c'est l'islam. Mais je le dis, alors c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que l'islam, je signale au passage que je pense que le néo-protestantisme, dont on voit aujourd'hui qu'il est relativement vif, prosélyte...
Notamment aux États-Unis ou alors, en Afrique subsaharienne.
En Afrique subsaharienne beaucoup, mais je crois par les effets de migration aussi en France... posera sans doute demain d'autres questions.
Jean-Louis Bianco de l'Observatoire National de la Laïcité, vous êtes d'accord avec ce choix que c'est la religion musulmane qui est au cœur du sujet du fait religieux en entreprise aujourd'hui ?
C'est très majoritairement le cas, mais pas seulement. À l'Observatoire, nous n'avons pas attendu les attentats pour publier un guide dès 2013, qui s'appelle « La gestion du fait religieux dans l'entreprise privée » et qui donne non seulement du droit, de la jurisprudence, mais des réponses à des questions concrètes. Et je vais vous donner des exemples concrets pour montrer que si, comme le dit très bien le précédent intervenant, c'est majoritairement lié à la religion musulmane, dans l'histoire et dans la jurisprudence, il n'y a pas que ça. Un employé d'un restaurant en self-service refuse de tailler sa barbe. C'est susceptible de sanctions. Là, c'est musulman. Un employé sikh refuse de porter un casque sur un chantier. C'est une question de sécurité.
À cause de son turban.
Une salariée chrétienne distribue des tracts anti-envertement. Des employés portent un signe religieux, refusent de mettre la tenue commerciale de l'entreprise. Un employé juif refuse de répondre au téléphone le vendredi après-midi. Un salarié musulman refuse de participer à des réunions d'équipe pendant le ramadan. On voit qu'à chaque fois...
Tout ça, ce sont des faits
qui ont été condamnés par la jurisprudence. Enfin, les sanctions ont été confirmées par la jurisprudence. Donc, dans les faits, la majorité des cas, c'est en effet des faits musulmans. Dans la jurisprudence et dans les cas concrets, on en a d'autres et c'est toujours le même critère. C'est ça qu'il faut bien faire comprendre. Est-ce que ça porte atteinte à la sécurité ? Est-ce que ça porte atteinte à l'hygiène ? Est-ce que ça porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise ? Et ce sont ces critères objectifs qui permettent de justifier
là,
ou non un licenciement.
On est dans le cadre du code du travail. Donc.
Absolument.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on vous donne la parole. Bénédicte Ravache, que vous disent les DRH à propos de ce sujet ?
Alors, je voudrais d'abord sur ce qui a été dit avant, je pense qu'il ne faut pas négliger une chose, c'est que pourquoi est-ce qu'on parle de l'islam maintenant en France ? Parce que le cas, j'allais dire, de la religion catholique a été au cœur des débats en France pendant des dizaines d'années, après avoir été la marque du politique pendant des siècles.
C'est
donc il faut pas négliger ça. Deuxième point, il ne faut pas négliger les différences de religion. Pour certaines religions, l'intériorité est plus importante et pour d'autres, l'expression collective est très importante. Effectivement, dans le milieu du travail, des religions qui sont d'abord des orthopraxies, des religions qui sont d'abord collectives, hein, prier collectivement ou prier individuellement, si c'est plus important dans l'une ou l'autre des religions, ça ne posera pas la question de la même façon. Donc je pense que c'est un point pas négligeable là-dessus. Et donc c'est la raison pour laquelle les DRH se posent la question de façon un petit peu différente, parce qu'il y a tout un tas de points qui ont déjà été traités par l'histoire. Je pense par exemple les jours de congé de la religion chrétienne sont pour un certain nombre des jours de congé déjà fériés. Donc demander un jour de congé pour une fête religieuse est plus facile pour un chrétien qui souvent n'a pas à le faire. Que pour une autre religion.
Alors, nous vous donnons la parole au 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous et dites-nous quel problème pose la religion sur votre lieu de travail, dans l'exercice de votre métier, par exemple. Nous vous donnons la parole. Nous sommes en ligne avec Mohamed qui nous appelle de Cotonou, au Bénin. Bonjour Mohamed.
Bonjour madame.
Soyez le bienvenu. Mohamed, vous êtes agent de sécurité à l'entrée d'une banque à Cotonou, c'est bien cela ?
Oui.
Alors expliquez-nous en quoi vous vous sentez concerné par ce sujet de la religion au travail.
Bon, par rapport à mon travail, je suis chargé de surveiller les entrées et les sorties des clients dans la banque.
Oui.
Maintenant, le jour de mon prise de la directrice m'a demandé à ce que ce règlement dans cette société, c'est que je ne dois pas être absent de la salle d'accueil.
Oui.
Donc, du coup, j'ai le droit de quitter la salle d'accueil lors de la fermeture,
oui,
qui est de 17h15.
C'est ça, vous pouvez quitter votre poste à 17h15. Mais vous êtes musulman, voilà. et donc comment vous faites pour vos prières à 14h et à 16h?
À 14h et 16h, donc cette prière, je dois la rejeter pour après la fermeture.
C'est ça,
donc, c'est après
les faire après votre travail. Ça vous pose problème? Vous avez demandé une autorisation à la directrice qui a refusé?
Non, je n'ai pas demandé la permission. Seulement que... Et la dame, elle m'a donné ses règlements avant de commencer le travail. Elle a dit que c'est comme ça.
C'est ça. Donc, elle vous a expliqué clairement que donc ça n'était pas possible de vous absenter pour aller prier. Merci Mohamed de nous avoir appelé pour témoigner. Je voudrais donner la parole à une chef d'entreprise à Abidjan. Nous sommes en ligne avec Marie Konaté. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous sentez concernée par ce sujet dans un pays à la fois chrétien et musulman en tant que chef d'entreprise?
Oui, tout à fait. En Côte d'Ivoire, évidemment, toutes les trois principales religions, catholiques, musulmanes, protestantes, sont largement représentées. J'ai 75 employés et j'ai toujours veillé à ce qu'il n'y ait pas de prosélytisme, ni même de problème de religion dans l'entreprise. C'est indispensable pour garder l'équilibre.
Pour garder l'équilibre, ça veut dire quoi en termes de travail? Pour garder aussi une forme de cohésion, vous voulez dire?
Une forme de cohésion, même une forme de concentration au travail. Et si je proscris le prosélytisme, ça permet à chacun de se concentrer sur ce qu'il a à faire plutôt que de tenter évangéliser ou... convertir ses collègues de travail. Ce dont je n'ai pas envie, c'est que les personnes soient distraites par d'autres sujets, qu'on tienne des réunions sur le thème de la religion.
Mais ça veut dire que vous avez été confronté à des faits dans votre entreprise?
Ah oui.
Quoi, par exemple?
Oui, je peux vous donner même
très rapidement
trois exemples. Oui. Donc, au moment du Ramadan, j'ai été confrontée à un jeune homme qui, tout d'un coup, ne voulait plus travailler parce que il faisait son carême. Et donc, il n'avait plus assez de force et d'énergie et qu'il devait que la religion musulmane, pendant le Ramadan, l'empêchait de travailler. Il se trouve que je connais très, très bien cette religion. Et je lui ai dit, il dit, mais c'est ce que Dieu commande. J'ai dit, écoute, tu sors et tu demanderas au bon Dieu de te trouver un autre travail puisque c'est lui qui t'a trouvé celui-ci. C'est des choses comme ça, vous voyez, on arrête de travailler parce qu'on fait carême. C'est une affaire personnelle, la religion. J'avais aussi...
En somme, vous refusez d'entrer dans un débat théologique?
Je refuse même que ce débat théologique se tienne au sein de l'entreprise pour garder la cohésion. Hein? J'avais une fille très bien, qui travaillait très bien, mais qui était totalement voilée. Donc elle est venue pour un stage... Elle s'arrêtait à chaque fois qu'il y avait une prière. Vous savez, dans la religion musulmane, il y a 5 prières par jour. Elle s'arrêtait totalement de travailler. Nous produisons des aliments infantiles, donc il y a un problème de qualité, de normes qualité, de démarches qualité à respecter. Et on ne peut pas autoriser qu'un voile se promène dans l'usine, sans compter que c'est dangereux, ça peut être happé par les machines.
Merci pour cette position, Marie Konaté. Je crois qu'on a bien compris en tant que chef d'entreprise en quoi vous étiez concernée à Abidjan. 7 milliards de voisins, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le flash. Bien sûr, je vous laisserai la parole pour réagir, pour nous inviter en studio. Et appelez-nous, les voisins, pour nous dire quels sont les problèmes que posent les religions à votre travail. 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Quand la religion s'invite dans l'entreprise, malaise dans le travail, c'est le titre de votre enquête, Denis Maillard. Une enquête extrêmement documentée qui porte exclusivement sur la religion musulmane en France. On en parlait en première partie d'émission. Du fait aussi d'une inquiétude grandissante après les attentats de 2015. Jean-Louis Bianco, vous êtes président de l'Observatoire national de la laïcité et vous nous avez rappelé dans la jurisprudence et donc les cas qui sont passés en justice, qu'il y avait d'autres religions qui étaient largement touchées par des conflits au travail et qui finissaient devant la justice. Bénédicte Ravache, vous êtes secrétaire général de l'Association nationale des DRH. On entendait le témoignage de ce gardien de banque à Cotonou qui était déçu du fait de la clarté de son emploi du temps assigné par sa manager qui l'empêchait du coup d'aller faire ses prières de musulman en plein milieu de l'après-midi parce que ça n'était pas autorisé, qu'il ne pouvait pas quitter son poste. Et puis cette chef d'entreprise à Abidjan qui nous disait aussi juste avant le flash, eh bien moi je coupe court à toute revendication pour ne pas déconcentrer mes salariés, quelle que soit d'ailleurs leur religion, et qui nous disait qu'en gros elle leur disait si Dieu t'a trouvé un travail, demande-lui donc de t'en trouver un autre. Vous souhaitiez réagir, Denis Maillard, par rapport à ces témoignages qu'on a eu avant le flash?
Oui, parce que je les trouve particulièrement intéressants, qu'on soit à Paris, à Cotonou ou à Abidjan, parce que les deux personnes parlaient de Cotonou et d'Abidjan, j'imagine que les lois sont différentes. Toujours est-il que les situations sont un peu identiques. Et qu'est-ce qu'on voit? Deux choses très intéressantes et qu'on retrouve en France, hein, dans les questions de faits religieux et que j'essaye de mettre en lumière dans le livre, qui est que le travail doit être ce qui nous est commun et donc ça doit être supérieur aux questions de foi et aux pratiques. Et dans l'exemple du monsieur qui était gardien, dès son entretien d'embauche, on lui dit bien que c'est le travail qui va être plus important que sa pratique. Alors ça lui pose des problèmes, mais voilà. Et puis l'autre aspect, c'est pas de théologie dans l'entreprise. Sinon, si on commence à rentrer dans les raisons religieuses des uns et des autres, d'abord, on n'en sort pas, hein, et puis on risque de mettre l'entreprise à feu et à sang.
C'est le piège pour les managers, ça, Bénédicte Ravache?
Oui, le piège pour les managers, c'est de se dire, mais finalement, là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment on travaille ensemble. Et quelles sont les règles que l'on se donne? Donc elles n'existent pas a priori, c'est pas une règle extérieure comme la religion qui la décide. Et il faut que ce soit des règles qui paraissent justes pour tout le monde. Je trouve que le témoignage de la manageuse était clair en disant si ça touche la santé sécurité, si ça touche la qualité du travail, si ça touche les règles qu'on s'est données au départ, hein, le cas du gardien de banque. Alors là, la question est claire. Il ne doit pas y avoir de débat, mais il faut que la chose soit posée pour qu'elle soit juste pour tout le monde. Je reprends le témoignage.
Il y a beaucoup de cas où la chose n'est pas claire, précisément parce qu'elle ne touche ni à la sécurité, ni à la santé,
ni aux règles du contrat de travail.
Ni à la concentration au travail. Et ça crée quand même un malaise dans l'entreprise.
Oui, alors le malaise, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a aussi un principe, en tout cas très, très clairement réaffirmé en France, qui est un principe de liberté de conscience et de liberté d'expression religieuse, qui n'est limité que pour l'État, qui doit toujours garantir que, quel que soit le citoyen, il ne semble pas prendre parti. Donc l'État, lui, doit être neutre pour ne pas donner l'impression qu'il prend parti. Par contre, dans une entreprise, en tout cas c'est le cadre que la France a choisi,
on a le droit de montrer un signe d'appartenance religieuse.
Le montrer. Et c'est là que la question se pose, parce qu'il y a plein de signes, de la même façon qu'il y a plein de tailles de voile, qu'il y a plein de façons
et
de manger.
Où se situe la limite de ce qu'on appelle signe religieux?
Alors, c'est de façon plus générale, c'est la façon d'exprimer sa particularité. Et la France fait très attention à dire que ce soit la religion ou une autre forme de pensée, c'est-à-dire que l'objectif, c'est est-ce que je peux travailler, quels que soient mes choix politiques, philosophiques ou religieux ? Parce que je peux être croyant à un moment dans une entreprise et puis changer de croyance et puis mal croire. Est-ce que ça doit changer quelque chose dans ma relation au travail? Est-ce que ce que je crois doit s'imposer à mon employeur ou pas? Et là, la réponse, elle est de dire c'est pas possible de prendre ça comme point de départ. Donc il y a un certain nombre de règles et puis il y a des ajustements pas faciles à apprécier au cas par cas.
Au cas par cas, justement, et c'est toute la difficulté, Jean-Louis Bianco.
Oui, mais en même temps, je trouve que, comme ça a été dit, les cas qui nous ont été soumis sont représentatifs des questions qu'on se pose aussi en France. Et on voit bien, les deux interventions précédentes l'ont montré, qu'en réalité, c'est pas toujours facile en pratique, mais assez facile de cerner le problème. Le problème, c'est en effet que l'État est neutre, mais que l'entreprise, en principe, n'a pas à avoir cette neutralité absolue. Et c'est, le principe, c'est aussi de mettre sur le même plan les convictions philosophiques, politiques, syndicales ou religieuses, de ne pas faire de la religion une singularité. Le problème se pose pour tous les cas de prosélytisme, d'entrave au bon fonctionnement. Et le critère de jugement, finalement, il est en principe assez simple, assez clair. Est-ce qu'une revendication quelconque, une manifestation quelconque d'appartenance religieuse ou autre, va nuire à l'exécution de la tâche? Est-ce que ça nuit au contrat de travail? Est-ce que ça nuit au bon fonctionnement de l'entreprise? C'est toujours ça qu'on doit se demander. C'est pas par principe nuisible, mais ça peut l'être. Et ça veut dire, par exemple, que en France, quelqu'un qui voudrait s'absenter, surtout dans une fonction de gardien, même autrement pour faire sa prière, ça n'est pas acceptable, parce que c'est certainement contraire au contrat de travail et à la sécurité. Donc on a quand même le contrat de travail, la sécurité, l'hygiène, le bon fonctionnement de l'entreprise. Et il y a parfois des solutions quand même, même souvent, qui sont des solutions de bon sens. On entendait Paprec tout à l'heure, pour les repas, il a dit quelque chose que nous, on n'arrête pas de répéter, que ce soit pour l'école, l'entreprise, l'administration, offrez du choix.
Des légumes à la place du halal, d'accord.
Vous n'obligez pas les gens, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire
dans
du halal.
La réalité, ça ne coupe pas court aux revendications, néanmoins.
Je vous assure que ça règle énormément de questions. Dans l'immense majorité des collectivités locales, par exemple, et des entreprises, ça se règle simplement par du choix qui est une question de bon sens.
Ouais. Denis Maillard, je voudrais qu'on parle d'un cas maintenant emblématique que vous avez beaucoup détaillé dans votre enquête. C'est la RATP, la Régie publique de transport à Paris, qui assiste à une montée des revendications d'ordre religieux depuis plusieurs années. Vous dites très clairement, en fait, c'est le fruit de mauvaises décisions politiques qui remontent à pas mal de temps d'ailleurs.
Oui, le cas de la RATP, je l'ai cité, j'ai un peu détaillé cet exemple-là parce qu'il me semblait vraiment emblématique de ce qu'on vit aujourd'hui dans la manifestation du fait religieux et que ça entremêlait beaucoup de problématiques qu'on retrouve.
En quelques mots, la RATP a décidé il y a plusieurs années de s'ouvrir à la diversité, hein, comme on dit politiquement correctement.
Oui, alors ça, c'est, alors il faut juste revenir un petit peu, revenir un peu en avant plus exactement. 2015, il y a les attentats à Paris et l'un des terroristes qui meurt en tuant beaucoup de monde au Bataclan, on s'aperçoit qu'il a été machiniste à la RATP. Et là remonte à ce moment-là beaucoup d'histoires et beaucoup d'interrogations sur la gestion du fait religieux à la RATP. Et on s'aperçoit quand on essaye de retracer un peu l'histoire qu'effectivement il faut là se mettre dans les années, début des années 90, où la RATP en banlieue parisienne a des difficultés pour faire circuler ses bus. Alors pas partout, pas tout le temps, mais ça arrive que des bus soient caillassés, que des chauffeurs de plus en plus fassent des grèves ou exercent leur droit de retrait
dans les banlieues
par rapport à ce genre de situation dans des banlieues un peu chaudes. La décision qui est prise, c'est effectivement de faire une politique de diversité en allant recruter là, dans les endroits où c'est difficile, les futurs
machinistes. Si c'est les grands frères qui conduisent, et ben ça va bien se passer dans le métro ou dans le bus.
Voilà. C'est
ça.
Alors de fait, c'est ce qui va se passer. Et la RATP, de ce point de vue, est plutôt exemplaire sur sa capacité à intégrer beaucoup de gens, à les former et à s'ouvrir à une réelle diversité. Mais le problème, c'est que la politique qui va être choisie, c'est le CV anonyme. Et le moment où on lève l'anonymat du CV, puisque quand vous avez un CV anonyme, maman, il faut bien savoir qui est-ce que vous avez en face de vous, où est-ce que la personne habite, comment elle s'appelle, etc. Et le choix qui va être fait, c'est de fixer les gens à l'endroit où ils habitent. C'est-à-dire que vous êtes proche de Pavillon-sous-Bois, vous mettre au dépôt de Pavillon-sous-Bois. Le problème, c'est qu'à la même époque, fin des années 80, début des années 90, on assiste à ce que Gilles Kepel a appelé à la même époque une... Alors, je ne sais pas s'il faut dire islamisation ou réislamisation au niveau de la banlieue, à savoir que l'islam est devenu un marqueur identitaire assez fort pour les descendants des générations immigrées arrivées en France dans les années 60, 70, 80. Et que le fait de fixer les gens là où ils habitent, ils ne sortent finalement jamais de l'endroit et des relations qu'ils ont.
Et en quoi ça pose problème par rapport à la religion?
Petit à petit, c'est que vous avez un chauffeur, si on sait que c'est une personne qui habite dans la cité là où il conduit, il va y avoir petit à petit des réflexions sur on t'a pas vu à la mosquée, mais au fait, tiens, laisse-moi monter. Et petit à petit, il y a une porosité entre l'entreprise et la cité qui fait que les choses vont être moins maîtrisées.
Alors depuis la RATP, les syndicats ont pas mal laissé faire. Il y a des syndicats qui se voient affublés de surnoms à la RATP.
Oui, alors il y a eu un moment. Alors il y a eu un moment le syndicat Force ouvrière qui s'est vu avec il y a eu un certain entrisme de personnes religieuses radicales au sein de Force ouvrière qui pour le coup a ses défaits de près de 200 de ces syndiqués.
Mais qui n'osait pas voulu surfer sur cette diversité pour recruter aussi, pour élargir le recrutement
pour surtout pour pouvoir faire droit à leurs revendications religieuses. C'est beaucoup ça.
Et alors, Force ouvrière qu'on surnommait à l'époque.
Oui, alors ça c'est c'était à l'époque on se nommait Force Orientale, mais Force ouvrière a fait le ménage qu'elle devait faire.
Il y a eu un autre syndicat aussi à la RATP.
Alors après il y a eu un syndicat qui s'est monté quand Force ouvrière a rejeté près de 200 de ses membres à cause de ces questions-là. C'est constitué à la même époque un syndicat anti-précarité. Alors, avec un débat, est-ce que ce syndicat est communautaire, pas communautaire ? Eux disent non, mais toujours est-il qu'ils font des scores importants dans les dépôts où il y a un fort communautarisme.
Alors justement, je voudrais qu'on donne la parole à un syndicaliste. On est en ligne avec Yves Verrier du syndicat Force Ouvrière. Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Vous venez d'entendre Denis Maillard, vous êtes secrétaire confédéral du syndicat FO. Dites-nous, vous, comment ont évolué les positions de votre syndicat sur cette question, puisque Denis Maillard semble décrire la position des syndicats en général sur le fait religieux en entreprise comme parfois un peu pris en étau d'une certaine manière.
Oui, bon, alors il y a le cas emblématique de la RATP qui vient d'être évoqué, où on a été confronté à ce problème. Au passage, on a perdu de peu la représentativité à la suite de cela, ce qui nous a coûté quand même assez cher.
Parce que vous avez exclu des membres du syndicat pour ne plus être surnommé Force Orientale, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, mais je vais revenir là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que au demeurant, on a quand même de l'ordre de 20 000 implantations en France et dans les territoires d'outre-mer, et nous n'avons quasiment aucun problème lié à ces questions d'affichage religieux ou autre. Donc, il faut quand même aussi relativiser. Monsieur Bianco disait que dans beaucoup de situations, on règle les problèmes assez pragmatiquement, et c'est effectivement la situation aujourd'hui, en tout cas.
Donc vous dites qu'il n'y a plus de problème ?
Non, je ne dis pas qu'il n'y a plus de problème. Il n'y a pas tant de problèmes que cela dans le monde du travail. Et vous me demandiez si on a évolué dans nos positions. Justement, non. FO est une organisation qui est réputée pour être particulièrement attachée à la laïcité. Et ça tient à notre conception du syndicat, de sa place dans la société, de son rôle, de son organisation. Elle est fondée sur l'indépendance. Nos statuts, dans leur préambule, affirment l'indépendance absolue à l'égard du patronat, bien sûr, des gouvernements, des partis politiques, on en parle plus souvent vis-à-vis de cela, des sectes philosophiques et à ce titre des religions. Et on continue en affichant notre irréductible opposition à toute influence extérieure au mouvement syndical. Donc,
Dans le même temps, vous devez recruter. Est-ce que on reproche souvent aux syndicats, mais pas forcément Force ouvrière d'ailleurs, de jouer une forme de double jeu, en tout cas de pas forcément être clair avec le sujet?
Ah si, on est clair. Nous, on est très clair là-dessus. Et d'ailleurs, je voulais juste une remarque par rapport à ce qu'a dit M. Bianco quand il dit ou parle de l'expression au sein de l'entreprise et il met sur le même plan liberté syndicale, liberté de confession, etc. C'est pas sur le même plan. Dans l'entreprise, il y a justement un droit spécifique en matière syndicale et qui préserve justement différemment la liberté d'expression et d'action du syndicat dans l'entreprise.
Vous avez raison, ce qui n'est pas le cas de la liberté politique. C'est pas
absolument
la même chose.
Et
la liberté
voulez,
syndicale, ce n'est pas la liberté politique.
Oui. Voilà, ce que je voulais dire justement, c'est que nous sommes donc très attentifs à ce qu'on laisse à la porte du syndicat tout ce qui ne relève pas du statut du salarié en tant que salarié dans l'entreprise. Chacun est libre à titre citoyen, à titre individuel, et à chaque fois que le politique ou le religieux a investi notamment le mouvement syndical, Ça a créé à la fois des divisions et l'affaiblissement du mouvement syndical.
En même temps, sur la loi travail, par exemple, vous ne pouvez pas faire autrement, par exemple. Mais Jean-Louis Bianco veut intervenir. Bianco. Non, mais vous êtes bien obligé de prendre des positions politiques, néanmoins, y compris en interne dans les entreprises.
Ce n'est pas une position politique. Non. Quand je dis le politique, je parle des partis politiques.
Oui, non, mais
Force ouvrière s'est créée en 1948, il va y avoir 70 ans, parce qu'on refusait la mainmise d'un parti politique sur le syndicat.
Jean-Louis Bianco, vous souhaitez intervenir ?
Oui, tout à fait. D'abord pour saluer l'attitude de Force ouvrière qui n'était pas évidente et qui est parfaitement conforme à l'esprit de la laïcité. Deuxièmement pour dire, et c'était la leçon de l'enquête que vous avez faite, qu'il faut toujours en parler, que c'est très mauvais quand on n'en parle pas, quand on nie la réalité, quand on laisse les faits sous le tapis. Et en même temps qu'à partir du moment, moi j'en avais parlé avec Elisabeth Borne quand elle a pris la direction de la RATP, à partir du moment où on reprend les choses en main, où on met des règles claires, peu de cas de conflit. Le délégué général à l'éthique disait en mai 2017 les cas litigieux sont maintenant très marginaux. Donc ça prouve qu'il y a des réponses qui sont possibles. J'ajoute aussi un point, l'entreprise elle n'est pas en dehors du monde. Elle n'est pas en dehors des conflits, elle n'est pas en dehors des interrogations. Donc c'est normal en même temps qu'il y ait une certaine pression qui s'exerce. Encore faut-il rappeler l'intérêt de l'entreprise, le bon fonctionnement d'une mission et l'indépendance syndicale telle que
alors,
ça vient d'être dit.
Néanmoins, je voudrais juste préciser que notre reporter Charlie Dupuis a contacté un responsable de syndicat à la RATP, donc la régie publique de bus et métro à Paris, qui a catégoriquement refusé de participer à notre émission parce qu'il dit qu'il a reçu des menaces de violence notamment. Et il nous a dit que dans les notes de service qu'il voit passer à l'heure actuelle, il y a des recommandations pour la construction de bâtiments du type « il ne faut pas aménager deux pièces dans les locaux parce que, mais au contraire privilégier systématiquement la construction de salles uniques, d'open space pour éviter le risque de demande de salles de prière ». Et donc pour lui, le sujet va de nouveau exploser dans les prochains mois. Yves Verrier, ça n'est pas du tout ce que vous dites.
Bah écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Hein. Je suis ingénieur météo de formation, mais en la matière, ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas ce qui se passera ou non sur ce terrain-là dans deux mois. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, nous ne rencontrons pas, ne remontons pas de difficultés particulières de ce point de vue. Et les salariés dans l'entreprise, vous savez, c'est un peu, passez-moi l'expression, mais les laïcs au sens du Moyen-Âge dans les abbayes, ils sont salariés indépendamment de leurs convictions, engagements politiques, philosophiques, religieux, parce qu'ils ont intérêt à se regrouper vis-à-vis de ceux qui représentent l'employeur, la direction, pour faire valoir leurs droits, négocier, trouver des compromis, les faire progresser.
C'est ça le principal problème. Alors, restez en ligne avec nous. Denis Maillard, vous allez beaucoup plus loin dans votre livre à propos du cas emblématique de la RATP, et ça rejoint d'autres entreprises. Vous dites clairement aujourd'hui qu'il faut revoir les politiques de diversité dans les entreprises. Qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, finalement.
Oui, alors ça demande un peu d'explication. Les politiques de diversité qui, à partir des années 80, sont mises en place dans beaucoup d'entreprises en France, cherchent à répondre à ce que moi j'appelle un tournant identitaire de la société française dans les années 70-80, où les questions sociales, on va le dire comme ça, s'efface un peu devant des questions de reconnaissance individuelle, reconnaissance de groupe.
Ça répond à des faits aussi, c'est qu'aujourd'hui encore, la plupart des candidats issus de la diversité s'estiment victimes de discrimination pour trouver du travail ou pour faire carrière dans une entreprise.
Effectivement, c'est pas niable, on peut pas le nier, mais il y a... À quoi cherche à répondre, je veux dire, très concrètement, et puis à quelle vision du monde et vision de la société ça correspond. Et il se trouve que ça n'a pas tellement posé de problème quand il a fallu, alors, si on met un peu toutes ces choses-là, chercher une intégration des handicapés dans l'entreprise, une meilleure visibilité de minorités ethniques ou sexuelles.
Mais qu'est-ce qu'il faut revoir sur les politiques de diversité à cause du fait religieux en entreprise ?
Je vais jusqu'au bout de mon explication. Il se trouve qu'aujourd'hui, on bute sur la question du fait religieux, parce qu'on est en France et parce que il y a pas seulement la laïcité dans les textes, mais il y a aussi une laïcité dans les têtes qui est que, d'une manière générale, les salariés, ça, enquête après enquête, année après année, les résultats sont stables de ce point de vue-là, demande à ce que la religion soit mise de côté, soit mise un peu en sourdine et que les revendications religieuses restent des choses privées. Et aujourd'hui, la religion pose ce problème-là et finalement permet de remettre sur la table cette question des politiques de diversité qui me semble aujourd'hui toucher leurs limites.
Alors, finalement, Bénédicte Ravache, je voudrais qu'on soit concret. Bénédicte Ravache, est-ce qu'aujourd'hui les DRH se disent « Oh là là, la diversité, ça va nous entraîner que des problèmes sur le plan des religions, vaut mieux passer à autre chose ?»
Non, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. D'abord, je pense qu'il faut bien marquer une chose autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure en disant « Il y a un contexte terroriste et tout. » Il y a deux choses. Il y a dans le fait religieux, il y a le fait religieux de l'expression normale d'une foi, et puis il y a la radicalisation. En contexte de terroriste, on a tendance parfois à faire un lien qui est parfaitement inapproprié.
Mais sans qu'il y ait la radicalisation, il y a des choses qui mènent au tribunal.
Voilà. Mais d'abord, c'est important de le repréciser, c'est-à-dire toutes les religions ne mènent pas à ce point-là, parce que ce qui peut faire peur aussi, c'est ça. Nous, on considère que ça relève de la sûreté et pas de la DRH, par exemple. Ensuite, sur cette question de la diversité, il faut voir que c'est d'abord l'envie de faire une promotion d'échange. Il y a beaucoup d'organisations qui recrutaient par le cousin, par un choix qui n'était pas justifié. Et donc cette politique, elle se fait comme ça, et elle doit aller finalement jusqu'au bout, c'est-à-dire dans la gestion au jour le jour. Si quelqu'un, pour être très concret, me demande une autorisation d'absence pour une fête religieuse, il faut, par souci d'égalité de traitement, que la personne qui a envie d'avoir un jour de congé aussi, qui n'est pas prévu, parce qu'elle veut faire du shopping, ou parce qu'elle va emmener son fils faire une soirée, ne soit pas pénalisée par rapport
à
ça.
On est bien d'accord, mais quel rapport avec les politiques de diversité? Est-ce qu'aujourd'hui, les DRH sont moins friands de politiques de diversité avec la montée du fait religieux en entreprise ou pas?
Non, la question que soulève David Maillard, c'est qu'il n'y a pas de politique avec une bonne intention qui n'ait pas des effets de bord auquel il faut forcément s'attacher. Donc la question de savoir si l'objectif des organisations c'est de développer la diversité, la réponse est toujours oui. Ce que vous soulignez, c'est qu'il y a toujours un problème potentiel de discrimination à l'embauche et que les attentes des collaborateurs, c'est de s'assurer qu'ils ont bien été recrutés sur des compétences et pas sur des critères qui parfois même échappent aux recruteurs. Donc la question, elle ne se pose pas là. Par contre, ce que soulève Denis Maillard, c'est que il n'y a pas de bonnes intentions qui ne doivent pas être néanmoins l'objet d'une vigilance, parce qu'on peut arriver au bout d'un moment, effectivement, à dire bah, laissons les gens là où ils sont, et finalement l'émancipation du travail, ce qui doit être un lieu où j'ai le droit d'être moi-même, mais aussi où j'ai le droit de changer, et où le travail ne doit pas continuer à m'assigner une place. Ce que disait Denis Naillard, c'est de dire si je suis dans un endroit où finalement, on me rappelle tout le temps mon identité. Je ne suis pas libre. On est dans une société
venez comme vous êtes ou laissez votre individualité à la porte. C'est toute la difficulté.
Exactement. Et ça s'estime vraiment au cas par cas. Et c'est pas balancer le problème par la fenêtre que de dire si c'est demander une salle de prière. Ça, c'est aussi une question difficile pour l'entreprise parce que elle est obligée de se poser la question. Elle ne peut pas se retourner, même en France, sur la loi, parce qu'il n'y a pas un texte qui dit c'est interdit. Je vais prendre un truc très caricatural. Vous avez le droit d'ouvrir une salle de sport dans une entreprise, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez ouvrir une salle de prière, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez dire que c'est la même salle. Vous pouvez décider que c'est pendant un temps donné. C'est vous qui devez assumer. Et c'est pas évident pour les entreprises.
Il n'y a pas de texte qui interdise une salle de prière dans une entreprise privée, on est bien d'accord.
Mais qui ne l'impose pas non plus et qui impose que l'employeur se positionne, ce qui est difficile.
Jean-Louis Bianco, est-ce qu'aujourd'hui le fait religieux est le pire ennemi de la lutte contre les discriminations? Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, voire même de l'islamophobie.
Ça n'est pas le pire ennemi. Le pire ennemi, c'est cette discrimination qui est terrible encore en France aujourd'hui à l'embauche, malgré les progrès, malgré la bonne volonté, mais qui vise les gens en fonction du quartier où ils habitent, les gens en fonction de leur religion supposée, les gens en fonction de leurs orientations sexuelles, les femmes, y compris l'égalité professionnelle. Donc il ne faut pas mettre que la religion dans cette discrimination. Et puis, je voudrais redire, l'entreprise n'est pas à l'écart de la société. On parlait tout à l'heure des problèmes dans certains quartiers. C'est des problèmes de politique d'intégration. S'il n'y a pas de diversité, alors la pression se fait ressentir sur les citoyens ordinaires et sur l'entreprise. Donc le combat numéro un à mener, il est très difficile, c'est d'introduire plus de diversité, plus de mixité sociale dans l'habitat et dans les écoles pour éviter ces pressions.
Il n'y a pas d'entreprise providence.
L'entreprise
ne peut
pas faire le travail à la place. L'entreprise ne peut pas faire le travail à la place des politiques publiques.
Yves Verrier, vous souhaitez ajouter un mot de conclusion? Il nous reste vraiment 2 minutes.
Non, si ce n'est qu'effectivement la question de l'intégration, des discriminations à l'embauche, des discriminations dans l'emploi, qui touchent de supposés attachements religieux, mais bien d'autres aspects, hommes, femmes, on en parle beaucoup aujourd'hui, évidemment.
Si ce n'est que le sujet nettement plus explosif sur les religions que sur les discriminations hommes-femmes.
Pardon ?
Le sujet est quand même nettement plus explosif. Il n'y a qu'à voir la difficulté qu'ont les journalistes à travailler, à recueillir des témoignages là-dessus, que sur les discriminations hommes-femmes.
Oui, non, mais explosif, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette question, résoudre ces problèmes d'accès à l'éducation, d'intégration dans la société, d'accès à l'emploi, résoudra une grosse partie des problèmes. Je vous dis encore une fois, lorsqu'on se retrouve dans les syndicats entre salariés, les couleurs, les religions, les engagements X, Y ou Z, politique, philosophie...
Vous débattez en toute clarté,
on n'a pas de difficulté.
Si tant est que tous les salariés se retrouvent dans les syndicats, et ça, c'est pas gagné. Votre conclusion, Bénédicte ?
Oui, je pense qu'il y a un sujet qu'on a abordé en biais, qui est la reconnaissance de la différence. Et quand vous demandez est-ce que les politiques de diversité achoppent à la question du fait religieux, nous, on voit plutôt deux sujets qui apparaissent. C'est la question du sexisme et la question de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire que pour que la liberté soit pour tous, il faut que chacun accepte effectivement des orientations qui ne sont pas forcément évidentes. Et cette limite, là, nous pose plus de difficultés encore à gérer au sein des organisations.
Merci à vous tous. Merci à l'équipe également, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier, Romain Dubrac et Didier Cherouz. Denis Maillard, vous publiez « Quand la religion s'invite dans l'entreprise, malaise dans le travail » aux éditions Fayard. Merci à vous, Jean-Luc Bianco, de l'Observatoire national de la laïcité. Et merci à vous, Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l'Association nationale des DRH. Demain, 7 milliards de voisins, Charlie Dupiot vous donne la parole sur les violences conjugale. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Nous enregistrons notre émission en public à Saint-Louis du Sénégal, au Quai des Arts, à l'occasion du premier forum de Saint-Louis. Et je vous propose un débat. Peut-on entreprendre loin des capitales en Afrique ? La croissance urbaine va-t-elle profiter aux villes secondaires ? Pour en discuter, je reçois des invités sénégalais, maliens, camerounais. Et bien sûr, vous venez nombreux, l'entrée est libre. Je vous donne rendez-vous dimanche après-midi.